Radio Oulala sur la bande FM 103.1 MHz, Sablé-sur-Sarthe et en streaming sur laoulala.fr.
Bonjour et nous sommes dans l'émission Entrée des artistes. Et oui, j'invite aujourd'hui Yannick Javaudin, qui n'est pas simplement directeur de l'Entracte, mais aussi un artiste. Donc c'est pour ça que tu fais partie de cette invitation. Bonjour Yannick.
Bonjour Joséphine et merci pour l'invitation.
Bah, avec plaisir. Donc vite fait, je suis allée sur Internet, j'ai fouiné et donc j'ai regardé un petit peu ton CV. Il commence en 1994 comme artiste de cirque, mais moi je suis curieuse et j'aimerais bien savoir avant, qu'est-ce qui s'est passé pour que Yannick, jeune homme, tout d'un coup fait ce choix et devient artiste de cirque. Qu'est-ce qui se passe dans la tête ?
Bah, c'est des rencontres et des intérêts. Déjà, j'étais très, très intéressé par la littérature et l'écriture, même de la poésie, quand j'étais adolescent et tout ça. Et je suis arrivé au théâtre par une rencontre amicale. Et j'ai commencé avec une petite troupe de théâtre amateur dans un village, sur du Luigi Pirandello, personnage en quête de masque, sept personnages en quête d'auteur. Une très belle pièce. Et puis après, j'ai découvert Samuel Beckett, donc du théâtre contemporain très fort, et ça m'a beaucoup intéressé. Et j'ai même écrit une petite pièce de théâtre que j'ai mise en scène quand j'avais 18 ans, et dans laquelle j'ai invité des jongleurs. Et ça a été une rencontre assez, assez forte. Et du coup, après quelques temps, je me suis mis à jongler, et j'ai découvert une passion pour le jonglage, et j'ai laissé un peu tomber le théâtre. Et pour jongler dans la rue, en fait. Et donc, j'ai beaucoup voyagé en tant que jongleur de rue.
Donc, tu t'es formé où ?
Autodidacte.
Ah oui, d'accord.
Voilà, donc des rencontres.
Tu as commencé aux trois balles, les massues, voilà. Tu t'es amusé avec tout.
Les torches, les diabolos. Et puis après, le diabolo est devenu une spécialité. Et c'était au moment de la chute du mur de Berlin. Et il y avait un genre de grande aspiration vers l'Est, quelque chose, une genre de terra incognita européenne. Et c'était en même temps les accords de Schengen avec l'ouverture des frontières et tout ça. Donc je suis parti voyager dans les pays de l'Est pendant 2 ans. Donc c'est pour ça que ce n'est pas visible dans mon CV. Donc c'est un genre de périple où je voyageais de ce que je produisais dans la rue et des rencontres que j'ai faites. Et donc je suis passé dans tous les pays de l'Est pour aller jusqu'en Turquie. Et après revenu en passant par Berlin et revenu en France. Et puis là j'ai croisé la route d'un cirque. Et là j'ai vraiment appris le métier du cirque.
Donc ça, c'est entre 1994 et 2001, c'est ça ?
Ah non, ça, ce voyage, c'est justement, non, c'est entre 1992 et 94, c'est avant 94.
Ah oui, donc c'était avant. Voilà. Donc je suis impressionnée quand même, parce que si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur la toile et puis voir les prouesses que tu pouvais faire avec le diabolo, mais savoir que tu étais autodidacte, moi je sais, hein, on s'essaye au niveau de la jonglerie. Et c'est vrai que ça demande une sacrée persévérance, donc je pense que tu as passé pas mal d'heures.
Oui, après je me suis nourri aussi de rencontres, c'est-à-dire être autodidacte, c'est aussi faire des stages, d'aller dans des écoles de danse, de continuer à faire du théâtre, de s'auto-produire sa formation aussi. Donc il y a un moment, de toute façon, on ne peut pas tout apprendre par tout seul, après on peut répéter tout seul, après il y a un niveau de performance. Mais aussi le fait de travailler tout seul, ça m'a permis de développer mon style de jonglage qui fait qu'après, il était différent des autres. Et de fait, j'ai beaucoup joué après, en fait, avec ce numéro que j'appelais l'Elasto Diabolo, en tous les cas.
Donc tu n'étais pas formaté.
Tout à fait.
C'est ça. C'est que tu as pu avoir ta petite poésie.
Voilà, je devenais une anomalie ou quelque chose qui intriguait, en tous les cas, et qui plaisait. Et j'ai beaucoup tourné avec ce numéro original.
Donc 1994-2001, donc là ça, voilà, il y a mon artiste de cirque. 2002-2008, là tu fondes ta compagnie, le Circologio.
Circologium, oui. Et alors c'était en parallèle, c'est-à-dire que j'ai toujours mené à la fois une carrière solo et une carrière collective. Et donc je travaillais avec ce premier cirque était un cirque régional, les Oiseaux Fous. Je suis passé dans un cirque, on va dire, de dimension nationale et internationale, le Cirque Baroque, avec lequel j'ai eu la chance de tourner dans plein de pays, plein de continents, en Amérique du Sud, en Asie et tout ça. Et du coup, ça me faisait une vraie visibilité qui m'a permis de produire mes propres spectacles et donc de créer une compagnie et d'embaucher un administrateur pour m'accompagner et de faire des dossiers, de mettre le doigt dans l'administration de spectacles vivants.
Donc pendant cette période, tu es quand même primé avec le numéro visuel Diabolo. Oui. Et tu participes aussi au plus grand cabaret du monde.
Voilà, c'est des petits événements qui marquent le grand public, on va dire. Je dois avouer que mes parents, la vidéo, elle a tourné pendant 6 mois dans la maison.
Mais... voilà, mais... De quoi tes parents, quand même, pour quand tu as fait ce choix d'être artiste de cirque
C'était pas tout à fait leur prévision, on va dire.
Ils projetaient sur toi. Autre chose.
J'avais une certaine facilité à l'école, donc ils avaient une certaine ambition. Voilà. Et après quelques années, on va dire, ils ont conçu que c'était du travail. Et puis après, ils ont vu que c'était vraiment du travail. et que je gagnais ma vie.
Et que tu étais heureux dedans. Quoi.
Voilà, c'est ça. Donc pour eux, maintenant, ils sont, je crois, assez fiers, on va dire.
De quoi un personnage lunaire, un Pierrot?
C'est ça, assez poétique. La poésie a toujours fait partie de mes canons d'intérêt, en tous les cas, des choses que moi je trouve ça important. Même aujourd'hui, encore dans la programmation que je fais pour l'entracte, j'essaye qu'il y ait une dimension poétique.
Donc quand on voit sur Instagram que tu dis que tu as la tête dans les étoiles, c'est ce personnage-là qui caractérise un peu ce côté... C'est ça? Qu'est-ce que tu appelles? J'ai la tête dans les étoiles.
Les pieds sur terre et je m'autorise à rêver. Alors en ce moment, la réalité est tellement peu prégnante que c'est difficile de rêver. Mais il faut quand même, dans ces métiers-là, si on rêve pas, on peut rien faire.
C'est vrai. Donc 2008-2009, le Cirque du Soleil. Donc là pour nous, le Cirque du Soleil, c'est quand même une grosse boutique. Tu pars à Montréal?
Je pars à Montréal avec ma petite famille en plus. Donc ça faisait un moment que, ça fait même plusieurs années que le Cirque du Soleil me sollicitait. Et puis à un moment, je me suis retrouvé dans une situation où avec ma compagnie, j'avais plus tout à fait les moyens de mes envies. Et donc j'ai fermé la compagnie en France et je suis parti donc pour un an travailler au Cirque du Soleil. Ça devait être plus longtemps, mais à un moment je me suis pas retrouvé. C'était vraiment une trop grosse entreprise en fait qui niait un peu la dimension humaine et justement une fausse poésie on va dire. Et d'un accord commun on s'est séparés et donc je suis rentré en France.
Donc là, au Cirque du Soleil, tu présentais un numéro Diabolo.
Voilà, c'était une adaptation du Diabolo. Plus, j'étais personnage visuel aussi, un genre de personnage fil conducteur, un peu un monsieur loyal qui circule entre les scènes et qui fait un peu personnage conducteur du spectacle.
Donc, tes petites années auparavant en théâtre t'ont bien servi, ça
sert
toujours.
Ah bah oui, de toute façon, voilà, je mets à profit tout ce que j'ai pu apprendre auparavant.
Donc, retour de Montréal, et là, c'est la bascule, un peu. Oui. 2010, donc tu changes un peu de métier, tu t'orientes vers l'administration, il y a un petit glissement quoi, toujours dans le monde du spectacle.
Après le Cirque du Soleil, où j'étais arrivé à certains niveaux on va dire de performance, je me suis posé la question de comment recommencer en France après, et en tant que directeur artistique de compagnie, en fait, comme je n'avais pas les moyens de payer un administrateur à temps plein, je faisais beaucoup de tâches de production, d'administration, de diffusion. Mmh. Et c'est lui qui m'a dit, parce qu'il avait trouvé, je lui avais trouvé un autre boulot, moi, avant de partir au Canada, dans un syndicat du cirque. Et puis, quand je suis revenu, c'est resté un ami, il me dit, mais il y a une super formation d'administrateur de spectacle vivant. Donc, genre de formation accélérée VAE sur 6 mois. Et du coup, j'ai postulé, parce que c'était une formation sur concours, j'étais retenu. Et à la fin, donc, au bout de 6 mois de formation, de revenir à l'école 35 heures par semaine, aidé par l'AFDAS, j'ai eu le diplôme avec les félicitations du jury, dans lequel il y avait le ministère de la Culture. Voilà. Mais après, la difficulté de trouver du boulot quand on a un CV avec 15 ans de Diabolo, on ne donne pas tout de suite les rênes d'un théâtre. Et donc, je suis passé par des étapes. Après, donc, j'étais un an directeur de la Maison de la Magie à Blois. Et puis, après, il y a le Cheptel Alekoum, qui est un collectif de circassiens en région centre, qui cherchait un administrateur. Et là, c'était vraiment un poste où je pouvais mettre à profit toute la formation que j'avais faite. Et je suis resté avec eux pendant 5 ans.
Donc, voilà. Et après, donc, le théâtre équestre Zingaro.
Alors ça, c'était...
2016-2017.
Voilà, donc à un moment, je suis quelqu'un qui aime bien se remettre en danger, on va dire, qui des fois a besoin de nouveaux challenges. Et après 5 ans avec le cheptel à l'Ecoum, donc j'ai postulé au poste d'administrateur général du théâtre équestre Zingaro. Et je suis resté, et moi j'ai été recruté, et c'était une expérience très très intéressante, à un niveau d'excellence culturelle très élevé, avec un grand artiste qui est Bart Abbas.
On connaît sa personnalité
voilà,
aussi.
Voilà, avec
hein.
Des conditions de travail qui étaient délicates aussi, et puis à une période particulière, et le fait est qu'à un moment... voilà, j'ai décidé de partir et donc de postuler à la direction de l'Entracte à Sablé-sur-Sarthe.
Et donc, te voilà à Sablé-sur-Sarthe.
Voilà, depuis plus de 3 ans maintenant.
Oui, c'est ça, depuis 3 ans. Et donc, quand tu es arrivé à Sablé, qu'est-ce qui t'a surpris ?
Qu'est-ce qui m'a surpris ? Sablé, bah, déjà, j'ai trouvé ça mignon. À part les entrées de ville qui sont un peu, bon, pas très jolies, mais une fois qu'on est à l'intérieur, il y a ces petites rivières, cette île, ces canaux. Donc voilà, ça, j'étais assez agréablement surpris, on va dire. Et puis je me suis dit qu'il y avait du potentiel justement pour programmer des choses dans le patrimoine, dans les spectacles de rue, ben voilà, des choses. Le parc de Château, j'aime beaucoup ce lieu aussi. Et puis après, c'est surtout aussi bah, les gens avec qui je travaille, donc mes collaborateurs les plus proches, comme François Ledeuf ou Marie Collet, et puis toute l'équipe de l'Entracte avec qui vraiment on a créé quelque chose de très fort depuis 3 ans. Quoi, et de le challenge de renouveler aussi le projet, ça c'était intéressant. C'est-à-dire que j'ai été recruté aussi sur mon parcours et mes compétences pour animer un territoire et renouveler un genre artistique.
Et est-ce que la scène te manque, des fois ? Parce que je peux comprendre. Hein.
Alors, j'ai mon petit moment de scène, c'est l'inauguration de saison, où je viens présenter, et ça, c'est chouette. Alors après, en vrai, non. J'ai pas un manque viscéral de la scène. Des fois, j'ai un peu l'impression d'être toujours en représentation aussi, en tant que directeur de l'Entracte. Il y a beaucoup de représentativité du rôle et tout ça, mais même si j'essaye d'être le plus... sincère dans mon relationnel. Non, ça me manque pas. Et puis après, je pense que artistiquement, voilà, je cuisine, je fais d'autres choses où je me révèle, où je me fais de la mise en scène. J'aime bien recevoir les amis à la maison. Et puis voilà. Et puis de temps en temps, j'ai eu un petit groupe de rock aussi en campagne.
Ah oui, donc tu faisais de la musique ?
Je chantais. Ouais.
Ah oui.
Moi, ça m'arrive encore de le faire, mais c'est très confidentiel.
D'accord. Ça c'est prête. Et voilà, pour une des personnes qui voudraient être directeur d'un centre culturel, quoi. Donc, d'après ton expérience, quelles sont les qualités à avoir pour diriger un centre culturel ?
La patience, de l'écoute, de la bonne connaissance de tous les éléments pour créer des spectacles. C'est-à-dire que ce qui est intéressant là, dans le relationnel aux artistes, c'est comme j'ai fait à peu près tous les postes dans la production, donc de l'écriture de spectacles à l'administration, à la direction artistique, jusqu'à maintenant les programmer, bah j'ai une vraie compréhension des problématiques des créateurs, et donc je peux aussi me mettre à leur service, comme eux peuvent se mettre à notre service. Quoi. Donc il y a une idée d'échange et que tout fait partie d'un écosystème. Donc, et puis après, comme j'ai une assez grande expérience, mine de rien, j'ai vu des centaines de spectacles, donc j'aime bien être surpris aussi. Moi. Donc des fois, j'arrive encore à être surpris. Donc je ne suis pas du tout blasé en tous les cas. Et je pense qu'il ne faut pas être blasé pour se faire ce métier.
Donc c'était la question à suivre. Voilà, comment vous construisez à l'Entracte une programmation. Donc je vois que tu as des thématiques. L'année dernière, c'était la marionnette. Cette année, c'était plutôt l'itinérance avec le cirque.
C'est ça.
Et donc, après, le choix des spectacles, c'est du bouche à oreille, tu vas au festival, comment tu choisis tes...
Alors déjà, normalement, je propose au comité de programmation, puisqu'on est en travail en collaboration, mais que des spectacles que j'ai vus. Après, des fois, je m'engage sur des créations, donc c'est des spectacles qui n'ont pas été créés, donc c'est sur des intentions, mais normalement, je vois 90%, voire 100% des spectacles qui passent à l'Entracte. Et mon critère, quand je vois le spectacle, je me dis, j'ai envie de le revoir. Donc ça, c'est déjà un premier critère. Et après, je me dis, est-ce que je peux le revoir à l'Entracte ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a les moyens techniques, financiers, humains de l'accueillir ? Et puis après, est-ce que c'est adapté aussi au processus dans lequel j'emmène les spectateurs de l'Entracte ? Donc ça. Et puis après, c'est une alchimie. Donc là, je m'appuie aussi sur donc mes collaborateurs François, Marie, Nicole. On a un comité de programmation très régulier, bon, à récurrence variée, puisque là, en ce moment, justement, on se voit pratiquement toutes les semaines, voire toutes les assez fréquemment, parce qu'on est en train de finaliser la prochaine saison, donc on est sur les gros mouvements de dates et tout ça, donc on se consulte sur vraiment aussi l'équilibre entre les propositions, le rythme, les propositions scolaires, les propositions en territoire, donc je demande validation, c'est-à-dire je choisis pas tout seul en tous les cas la finalité de la programmation.
Donc là, on sait, c'est compliqué. Le centre culturel, donc, on explique, hein, le centre, moi, ce que je demandais, le centre culturel Lantrac, le centre culturel, voilà, moi qui suis sabolienne depuis longtemps, on va au centre culturel. Donc le centre culturel, ce que j'ai bien compris, c'est le bâtiment où donc il y a, et à l'avenir, ce sera le pôle culturel où il y aura la bibliothèque, la musique et l'entracte. C'est ça. Le centre culturel, c'est...
Effectivement, le centre culturel Joël Le Teul,
voilà,
est le bâtiment de la ville de la municipalité, de la ville de Sablé-sur-Sarthe, qui accueille donc des représentations diverses, dont 90% est occupé par l'entracte pour sa programmation. Et après, il y a des mises à disposition aux associations culturelles aussi, autres que l'entracte. Donc l'entracte, c'est d'abord une association, qui a l'appellation scène conventionnée d'intérêt national avec une mention art en territoire par rapport à sa présence autour de Sablé donc, et ses partenariats avec des communes chaque saison où on produit un tiers des spectacles de la saison dans des communes partenaires autour de Sablé.
Donc on a tous pu voir quoi, au niveau de l'entracte, toute l'équipe a essayé de s'adapter par rapport à la situation en proposant des spectacles dans la cour de l'école Gambetta. C'était heureusement, voilà, il y a des personnes, du public qui est venu. Et comment ça se passe, vous, en tant que toute l'équipe, comment on vit cette situation et quand est-ce qu'on va pouvoir retourner avec plaisir?
Alors, je ne lis pas dans les entrailles de poisson, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir retourner au théâtre. Après, c'est vrai qu'on se mobilise beaucoup. Alors, on était assez bon élève, on va dire qu'on subissait un peu toutes les décisions, un peu sans réagir. Là, j'étais un peu révolté quand même des dernières annonces. Alors après, les décisions, elles sont ce qu'elles sont, mais c'est comment elles sont prises et puis comment elles sont expliquées aussi. Et ce qui m'a révolté vendredi dernier, c'est Madame la ministre de la Culture qui dit que s'ils n'ont pas autorisé la réouverture des théâtres, c'est pour éviter un stop and go, entre guillemets. Alors déjà, en tant que ministère de la Culture, voilà, on pourrait s'exprimer différemment. Mais bon, en tous les cas, le stop and go, et c'est ça que je remets en question, c'est-à-dire qu'on n'a pas attendu le 10 décembre et les annonces de Jean Castex pour mettre en œuvre ou pas l'ouverture du théâtre. Nous, dès qu'on nous a dit que ça possiblement ouvrait le 15 décembre, on a fait tout le travail en amont pour réouvrir à partir de ce moment-là. Et tous les collègues, et tout le monde a eu ce sentiment d'injustice, en fait, que ce soit les cinémas, les théâtres et tout. Et c'est plutôt ça, donc c'est plutôt de se rendre compte qu'on est gouverné par des gens qui ne comprennent pas nos métiers. Et ça, c'est révoltant.
C'est vrai que c'est, de notre côté aussi, ce qui est épuisant, c'est les petits sauts de puce, quoi. C'est des annonces de 15 jours en 15 jours. Et t'écris un truc, et puis non. Et donc, il faut réécrire quelque chose. Et c'est ça, c'est ces petits sauts de puce qui fait qu'on ne peut pas trop anticiper.
Oui. Et puis nous, on se projette normalement. Donc moi, là, justement, je suis en train d'écrire la saison entre octobre 2021 et juin 2022. Donc je suis vraiment dans cette projection-là. Et normalement, la gestion du quotidien, j'ai pu à m'en occuper, entre guillemets. Il y a des équipes de production qui gèrent tout ça. Et là, je suis tout le temps sollicité parce qu'il faut toujours remettre en cause les décisions, des choix, être en veille. Moi, ça ne m'amuse pas trop d'être devenu le spécialiste de l'hygiène sanitaire Covid. Bon, après, c'est une nouvelle corde à mon arc, mais bon, je ne sais pas. Voilà. Donc après, c'est super parce qu'on est effectivement les décontractés. Ça a été assez symbolique de notre capacité à la résilience, à rebondir, à produire quelque chose. Et ça fait beaucoup de bien à l'équipe, aussi bien au public qui était présent, puisqu'on a eu deux super soirées, en tous les cas avec un grand succès, puis d'autres soirées plus intimistes. Et on regrette aussi que même cet événement Covid compatible ait été annulé à la fin. Donc voilà, donc on s'attend un peu à tout pour l'été prochain. Nous, on continue à travailler dans le sens de produire des gros festivals, mais peut-être qu'à un moment, on va arrêter et on reviendra sur une forme plus Covid-compatible. Donc là, voilà, faut rester disponible, flexible.
Et tout zagué.
Voilà.
Et alors, on va parler d'un joli souvenir. Est-ce que tu aurais une anecdote croustillante quand vous accueillez des artistes ou un souvenir
Là, comme ça, croustillant, non. Après, quand on avait parlé d'émission, il y avait parlé plus d'un souvenir au niveau en tant qu'artiste marquant. Donc là, ce ne serait pas par rapport à l'entracte, mais c'est par rapport à avant. Et je dois avouer qu'en tant qu'artiste, un des grands souvenirs, parce que j'ai joué dans plein d'endroits, mais ça a été de jouer au Festival mondial du cirque de demain, au cirque d'hiver à Paris. Et en plus, c'était un endroit où j'étais jamais venu en tant que spectateur et j'avais fait un genre de vœu comme ça en l'air. J'étais passé plusieurs fois devant. Je dis, de toute façon, le jour où je rentre là, dans cet endroit, c'est par l'entrée des artistes. Donc, je fais le petit rebond hein, sur l'émission. Mmh. Et effectivement, donc, contre toute attente, j'ai été sélectionné pour le festival en